Docteur Pauline Deveau, bonjour.
Bonjour.
Alors, la dernière fois avec vous, nous avons vu les conséquences des addictions dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, vous allez nous parler des maladies du sens.
Oui, alors, depuis donc maintenant, nous en sommes à notre troisième fois. Je vais juste reprendre un tout petit peu le cadre de ce qu'est la maladie addictive. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les émissions précédentes. Et donc, pour constituer une addiction, il faut bien évidemment un produit. Et j'ai bien expliqué que le produit, c'était, quel que soit le produit finalement, c'était la jouissance, c'était la recherche de sensations. Et puis ensuite, il faut des circonstances et voilà, particulières, des facteurs déclenchants, des on a vu qu'il y avait des problèmes de carence affective, etc. Et puis après, eh bien, il faut une personne vulnérable. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux addictions, ça c'est très important, parce que cette fragilité profonde, cette vulnérabilité, elle est quand même première dans le risque addictif, voilà. Alors, nous avions aussi vu que Internet est un facteur d'amplification aujourd'hui extraordinaire des addictions. Nous avons vu que l'addiction est aussi finalement une maladie du cerveau, parce que c'est le cerveau de gratification, c'est le cerveau de récompense qui va être mis en jeu et qui va se laisser déborder par la sensation. Et à un moment donné, il va fonctionner quasiment en automatique. Donc, c'est pour ça que l'addiction est une maladie de la gratification. Une chose importante aussi, c'est que on voit aujourd'hui combien les adolescents sont touchés. Effectivement, tous les patients que je vois en consultation, qui sont des patients plus sévères que d'autres, eh bien, ont commencé à l'adolescence. Effectivement, l'adolescence, c'est le temps de la recherche de gratification, c'est le temps de la recherche de sens. Et quand l'addiction vient répondre faussement à cette recherche de sens, eh bien, c'est gravissime parce que l'ado ne va plus se construire, il va juste rentrer dans une affaire d'assouvissement, de recherche de gratification. Et on remarque que plus on commence tôt les addictions, eh bien, plus elles sont graves. Donc, je dis ça parce que c'est important de faire de la prévention auprès des adolescents et de faire en sorte que les comportements addictifs s'installent le plus tard possible. Nous avons vu aussi la dernière fois que l'addiction est toujours une réponse à une douleur. On voit par exemple que les addicts sexuels, ceux qui sont touchés par des addictions sexuelles, ont pour une grande majorité d'entre eux été concernés par l'abus sexuel. À peu près deux tiers des addicts sexuels aux USA, on a à peu près les mêmes chiffres en Europe, sont des personnes qui ont subi ou un abus sexuel ou un inceste. Et aujourd'hui, on assiste dans les écoles à beaucoup d'abus sexuels entre pairs, donc chez les enfants qui quelquefois ont vu de la pornographie, puisqu'on dit que aujourd'hui, à partir de 11 ans, une grande partie des enfants ont vu des images pornographiques. Et du coup, par comme un mimétisme, ils vont reproduire entre eux finalement ce genre de pratiques. Et ça a valeur d'abus sexuel chez l'enfant parce que c'est quand même extrêmement traumatisant. Voilà. Donc, les conséquences des addictions, eh bien, l'addiction atteint toute la personne, donc physique, bien évidemment. Quelles que soient les addictions, il y a très rapidement une incurie, c'est-à-dire qu'on va mal s'occuper de soi, même si on est addict à l'informatique, à l'ordinateur, à Internet. Au bout d'un moment, on oublie de manger, au bout d'un moment, on ne fait plus de sport, au bout d'un moment, on ne prend plus soin de soi. Et puis, après, il y a des atteintes psychologiques parce que, comme l'addiction, c'est une recherche de gratification, mais pas une recherche de finalité, et on le verra aujourd'hui, quand on fait des choses qui n'ont pas de sens, au bout d'un moment, la vie va dans tous les sens et on perd le goût de la vie, on perd la joie, et cela va entraîner des dépressions, des tristesses, une vie inutile. L'addiction, ça donne aussi une atteinte existentielle, hein, c'est-à-dire désespoir, envie suicidaire, dès lors qu'on vit une vie qui n'a pas de sens. Une recherche éperdue de jouissance n'a jamais donné du sens à la vie, au contraire, ça vide la vie. Hein. Donc, les dépressions sont quasi pathognomoniques, concomitantes de la maladie addictive. Ensuite, une atteinte sociale, puisque les addictions, dès lors que vous n'avez plus besoin d'un autre, pour prendre du plaisir dans la vie, eh bien, vous vous retrouvez tout seul. Isolement, perte d'emploi, éclatement de la famille. J'ai aussi parlé des atteintes philosophiques. Ça me paraît très important parce que l'addiction va proposer un modèle hédoniste, un modèle consumériste, un modèle d'hyperconsommation. Et de ce fait, c'est important parce que ça va peut-être remettre en jeu notre style de société. Enfin, une atteinte anthropologique et spirituelle, dès lors que l'homme de la jouissance n'est pas l'homme de la finalité, l'addict va demander, va faire de son produit une idole. Et il va devenir un idolâtre, hein, c'est-à-dire l'homme de la puissance qui recherche de la puissance, mais qui va également finalement se soumettre à un produit en lui accordant sa puissance, mais on le reverra. Voilà. Donc ça, c'était, nous étions arrêtés la dernière fois sur les addictions, maladies des émotions, addictions, troubles de l'attachement. On l'avait aussi pas mal développé, hein, c'est-à-dire que quand on n'a pas pu s'attacher, enfant, quand on a des carences affectives, eh bien ensuite on peut s'attacher à la jouissance parce que la jouissance vient faire taire beaucoup de douleurs. Et donc, je vais m'attacher à des choses qui me donnent du plaisir fugace et ça vaudra attachement. Beaucoup de la vulnérabilité chez les personnes addictes est essentiellement représentée par des carences précoces pour les plus graves et très, très précoces pour les très graves. Donc, en ça, je dis souvent que l'addiction, c'est une maladie d'amour, en fait. C'est une maladie de désir aussi, puisqu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus que des besoins. Et aujourd'hui, notre monde va confondre désir et plaisir, désir et jouissance. Voilà. Donc, l'addiction est aussi une maladie du désir. Et le problème, c'est que le désir est toujours en lien avec un autre, mais le besoin est en lien avec personne. Donc, l'addict est inévitablement, au bout d'un moment, va vivre une vie sur soi, une vie égocentrique. Parce que finalement, on voit que les adolescents, ça les arrange, parce que l'adolescent, il a peur du monde, il a peur de se confronter aux autres. Alors, une petite jouissance auto-érotique, finalement, eh bien, c'est plus simple. Enfin, maladie des émotions, j'en avais aussi parlé, ça c'est très important de le reprendre. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que l'addiction va rechercher la jouissance et la sensation, et que c'est à cela que l'addict va être accroché, et quelquefois, ça va être des sensations désagréables. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes alcoolodépendant, vous n'avez plus envie de boire, mais vous êtes obligé de boire. Et donc, c'est difficile, c'est dur, c'est très très douloureux. Et donc, on peut avoir une jouissance négative, une jouissance qui n'apporte pas de plaisir, mais qui tout de même va apporter de la sensation. Et dès lors que vous êtes dans la sensation, eh bien, vous allez écraser toutes les émotions. C'est d'ailleurs ce que veut l'addict, puisque l'addict va écraser toutes les émotions négatives. Il est seul, il va regarder un film porno, mais en fait, il est encore plus seul. Il se sent nul, il va boire un verre d'alcool, mais après, il se sent encore plus nul. En fait, finalement, à chaque émotion négative, et puis après, à chaque émotion positive, eh bien, on va substituer une sensation. Et de proche en proche, il n'y a plus que des sensations dans la vie. Et s'il n'y a plus d'émotions, si je ne suis plus branchée sur mon cœur, eh bien, je ne sais plus où je vais, je n'ai plus de boussole. Parce que mes émotions, c'est la porte de mon intériorité. Et si je ne sais plus si j'ai peur ou si je suis joyeux ou si je suis bien, etc., si c'est la confusion émotionnelle, eh bien, je ne saurais plus où me diriger, comment me diriger. Et donc, finalement, la recherche de sensations et le contrôle des émotions sont au cœur du processus addictif. Voilà, donc nous avions enfin parlé de la recherche du bien qui n'existe plus chez l'addict, puisque la personne addict est obligée de se faire du bien, ne recherche que la jouissance. Et dès lors qu'on ne recherche plus le bien, le vrai bien, eh bien, on ne va plus choisir entre le bien et le mal. Il y a une banalisation du mal, hein. Dans l'addiction, il y a le monde des justifications, des bonnes excuses, mais la bonne excuse, ce n'est pas le bien. Voilà. Et si le problème de l'addict qui se fait du bien, c'est que dès lors que dans nos vies on se fait du bien, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, notre bien va peut-être supposer le mal pour un autre. Quand je me fais du bien et que je suis obligée, que ça devient un besoin irrépressible, eh bien, je me fiche un peu de savoir les conséquences de mes actes pour les autres. Alors que quand je recherche le vrai bien, eh bien, le vrai bien qui ne me fait pas forcément toujours du bien, qui va peut-être exiger de moi des efforts et sans doute des renoncements pour chercher un plus grand bien, eh bien, généralement, enfin, c'est d'ailleurs la définition du bien, quand je recherche le plus grand bien, ce n'est jamais pour moi tout seul. Le plus grand bien, c'est toujours un bien pour les autres. Voilà. Alors que la jouissance n'est pas toujours un bien pour les autres. Et on le voit bien pour la pornographie, qui est le summum de la jouissance recherchée par les personnes et qui finalement se font aux dépens d'un autre, aux dépens d'autres personnes qui sont sur la pellicule et pour qui la pornographie, enfin, leurs actes sexuels totalement désordonnés ne leur font pas du bien. Voilà. Et la difficulté, c'est que quand on se fait du bien aux dépens des autres, eh bien, ça ne peut pas rendre heureux. L'addict n'est pas heureux parce qu'on a tous besoin de rendre les autres heureux. Et si assouvir mon propre bien passe par le mal pour un autre, eh bien, au fond de mon cœur, je ne peux pas aller bien. Donc l'addiction est une maladie de la vérité. Alors, l'addiction est aussi une maladie du sens. Donc, nous y arrivons aujourd'hui. C'est une maladie du sens, on l'a compris, parce qu'évidemment, si c'est une maladie du désir et qu'il n'y a plus que des besoins, si c'est une maladie des émotions et qu'il n'y a plus que de la sensation, si je suis dans le mensonge parce que je confonds le vrai bien avec ma propre jouissance, eh bien, on pense bien que du coup, la vie n'a plus beaucoup de sens. Effectivement, il y a un écrasement du sens moral dans la population, aujourd'hui avec une banalisation du mal. On voit comment la pornographie est extrêmement banalisée aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Ils ne voient plus le problème. Ils ne voient plus le problème dès lors que, effectivement, sans doute que les acteurs porno, ils ont choisi, ils sont contents de faire ce métier, sinon ils en feraient un autre. Voilà, je crois que c'est vraiment méconnaître le monde de la souffrance humaine. Donc, on avait vu aussi la dernière fois que cette maladie de l'incohérence, donc je ne vais pas trop m'étendre, juste à dire qu'on ne peut pas vivre sans cohérence et que dans toutes nos vies, il est extrêmement important de chercher de la cohérence. Voilà. Parce que l'être humain, la personne, dans son fort profond, est fait pour la cohérence. L'incohérence, c'est très très insupportable et du coup, ça va entraîner une fuite en avant, une augmentation du produit de la jouissance, de la recherche de la jouissance plutôt, pour la faire taire, cette incohérence au fond de mon cœur. Je sais que je ne suis pas d'accord avec ce que je fais, mais comme j'ai l'impression, parce que c'est une fausse impression, que je n'ai pas d'autre solution, eh bien je vais en rajouter, et c'est la fuite en avant. Et on voit comment finalement notre société de divertissement, malade de consommer, avec cette hyper-consommation continuelle, ne remplit pas le cœur des jeunes et des moins jeunes. Et en fait, elle ne comble pas le besoin de sens de la personne humaine. Je crois que notre monde s'ennuie, les gens s'ennuient, alors ils tuent le temps, ils consomment. On est dans le passage à l'acte toute la journée, on n'est plus dans l'acte. Hein. Et il n'y a plus d'engagement, pourtant... on voit quand même qu'en France, un pays où il y a énormément d'associations, donc l'engagement est quand même très très important et au cœur de la finalité humaine. Mais l'addiction vient vraiment casser tous les engagements finalement de la personne. Voilà. Pour vivre nous avons besoin d'une cause supérieure, nous avons besoin de quelque part d'une cause pour laquelle on pourrait mourir. Si on ne sait pas pourquoi ou pour qui on pourrait mourir, eh bien peut-être qu'on ne sait pas pourquoi ou pour qui on va vivre. Et c'est vrai que notre société qui nie de plus en plus la mort, eh bien, si je nie ma mort, si je ne suis pas, si ma mort n'est pas la fin de ma vie, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir trouver un sens à ma vie, voilà. Donc l'homme est vraiment le seul être vivant qui doit donner du sens à sa vie. Les animaux ne donnent pas de sens à leur vie, on est bien d'accord. Et donc la recherche de sens est au cœur de la tâche humaine. L'addiction est aussi une maladie de l'altérité, une maladie de la relation. Dans l'anthropologie chrétienne, on a une chose très claire, c'est que la finalité de toute vie est relationnelle pour construire des relations d'amour par le don gratuit, dans des relations de communion et des relations d'amour à l'image de Dieu. L'anthropologie chrétienne nous dit que finalement, il n'y a pas d'humanité sans relation, et sans relation gratuite, et sans communion, c'est-à-dire que communion, c'est porter, communos, c'est la dette, c'est le devoir, c'est porter la dette ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre dans la vie tout seul. On est tous engagés dans une vie et la société et le cadre dans lequel nous allons vivre. Or, toutes les addictions faussent les relations. Hein, nous l'avons vu, puisque l'addict, finalement, est un homme seul. Et même l'addiction sexuelle, on voit combien... L'addiction sexuelle va blesser la cohérence de l'amour, qui est une caricature de l'amour, sans aucun don de soi. Et en fait, dans la pornographie, il n'y a aucun don. On voit comment le cybersexe, c'est-à-dire le sexe par l'intermédiaire d'Internet, va diviniser le sexe, mais en même temps le mépriser. Le corps n'est plus le support de l'être, il n'est plus rien. Alors que dans l'anthropologie chrétienne, nous croyons que nous sommes notre corps. Donc si j'engage mon corps, eh bien c'est toute ma personne que je vais engager. Et dès lors que l'addict passe sa vie à se faire du bien, eh bien le don, la relation, n'est plus du tout au centre de sa vie. Et c'est ce qui est très, très grave, notamment pour les jeunes qui se construisent et qui ont besoin de se construire dans l'altérité. Et si l'addiction va répondre de façon un peu efficace, mais va répondre à la recherche de plaisir, eh bien ils n'iront plus voir les autres pour avoir du plaisir avec d'autres. Parce que l'amitié, ça donne du plaisir, mais finalement, l'addiction à la pornographie, par exemple, va me faire croire que je peux avoir du plaisir tout seul. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et on ne se construit pas dans des relations avec d'autres quand on est addict à la pornographie ou à autre chose. L'addiction va couper vraiment du don. Donc, pour sortir de l'addiction, et on le reverra la prochaine fois, il faudra passer d'une logique égocentrique pour moi, vécu dans l'addiction, à une logique de don. Car donner donne du sens à la vie. Même si on n'a pas reçu, hein, je le disais aussi la dernière fois, même si on n'a pas reçu, eh bien, on peut donner quand même, parce qu'on est obligé de donner. Quelque part, l'être humain est fait pour servir, il est fait pour donner aux autres, et c'est ça qui le rend heureux. D'ailleurs, on voit bien quelquefois... Quand on passe des journées, on se dit « Oh là là, je vais rendre service toute la journée, ça me barbe un peu, j'ai pas envie d'y aller. » Et puis finalement, à la fin de la journée, on est très content. On est très content parce que notre vocation, c'est de donner, c'est de partager. C'est pas de prendre, c'est pas la captation. Absolument pas. Hein. Donc, l'oblation, c'est au cœur de notre existence humaine. D'ailleurs, on voit bien que toutes les associations, notamment les associations de malades de l'alcool, qui sont les plus anciennes dans notre monde, par exemple les alcooliques anonymes bien connus, eh bien, le service est au cœur du rétablissement, au cœur du processus de guérison. Donc, ne négligeons pas dans l'éducation, hein, l'éducation au don, parce que elle va être centrale et elle va être protectrice par rapport aux addictions. Voilà. L'addiction, c'est vraiment un auto-érotisme. Donc l'autre n'existe plus. l'altérité n'existe plus. L'addiction est aussi donc une maladie spirituelle. Et je pose la question, est-ce que l'addiction ne serait pas l'idolâtrie? Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une idole? Eh bien, une idole, c'est prendre un objet pour son tout, prendre un objet pour son Dieu. L'idole, elle est spirituelle, mais elle est aussi psychologique. Quand je suis alcoolodépendant, eh bien, l'alcool va être tout pour moi, parce que l'alcool va me réveiller, l'alcool va m'aider à vivre, l'alcool va m'aider à ne pas trembler, l'alcool va m'aider à faire les choses que j'ai à faire dans la journée. Et donc, inévitablement, eh bien, l'alcool va être au centre de ma vie, dans une position presque déifiée. Et l'idolâtrie va supposer que, dès lors que je vais mettre ma confiance en un Dieu, quel qu'il soit, eh bien, je vais lui accorder ma puissance. Hein. Et le problème de l'idolâtrie, c'est qu'il va y avoir un transfert de puissance. Je me sens impuissant, je vais demander au produit d'être tout puissant sur moi. Et si le produit est tout puissant sur moi, alors ça veut dire que je vais démissionner de moi-même. Et finalement, on se rend compte que tous les drogués, tous les addicts ont une insatisfaction existentielle profonde. Et même certains, il n'y a pas besoin d'être croyant pour ça, pour sentir que le ciel est vide pour l'addict. Il n'a plus d'espérance. Or, l'homme est un être spirituel, c'est-à-dire que les choses de l'esprit sont pour lui un besoin vital. Mais notre monde est en asphyxie spirituelle et rempli d'objets de consommation. Et cette hyper-consommation va couper la source. Et le comportement compulsif va étouffer ce souffle-là qui fait de nous des hommes libres, libres de nos choix. Parce que quand on se remplit d'objets ou quand on se remplit de comportements, eh bien, on ne respire plus au fond de nos cœurs. Donc, plus que les autres, finalement, les addicts vont faire l'expérience que ce monde matérialiste, rempli de sensations vides, les mène totalement à la mort. Alors que... Souvent, quand on est blessé, et les personnes addictes sont des personnes blessées, sont des personnes carencées, notamment en amour, et bien quand vous n'avez pas reçu l'amour auquel vous aviez droit, vous êtes plus sensible que d'autres à la question du supersens, comme dirait le psychiatre Frankl, le supersens ou même Dieu, pour donner sens à votre vie. Qu'est-ce que c'est que le supersens? Eh bien, on va dire que ce sont les valeurs métaphysiques, le juste, le vrai, le bien et le bon. L'appel à la radicalité, à l'engagement, au don total de soi, à la foi. Et le supersens est vraiment, dès lors que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres faits pour le sens, nous sommes des êtres faits pour le souffle, nous sommes des êtres faits pour l'esprit et pour l'infini. La question de la foi et la question du don est centrale dans le rétablissement de l'addict. Marguerite Duras, qui était une personne, un écrivain que tout le monde connaît et qui avait des problèmes d'alcool, disait dans un livre, tout petit livre qui s'appelle « La vie matérielle », « L'alcool ne console en rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans des régions souterraines où il est le maître de sa destinée. L'alcool, illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait dû croire en Dieu et qui n'y croit plus. L'absence de Dieu, c'est la cause. C'est étonnant que Marguerite Duras, qui n'était pas vraiment une grenouille de bénitier, place comme ça Dieu au centre de l'affaire addictive. Alors, bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que l'homme a besoin de plus grand, hein, de plus grand que lui. Et on assiste aujourd'hui notre société à la construction d'un nouvel homme finalement, l'homme de la jouissance, l'homme de la pulsion, de je fais ce que je veux quand je veux parce que ça me fait du bien. Voilà. Et c'est terrible de confondre le ça me fait du bien qui peut être extrêmement tyrannique pour soi-même et même pour les autres. Le ça me fait du bien va supposer que peut-être toi, ça va te faire du mal. Voilà. L'addiction est une façon d'être au monde, un mode de vie. Et aucun de nous aujourd'hui, finalement, ne peut dire que l'hyperconsommation ne nous concerne pas. L'hyperconsommation, c'est un combat pour tous, je pense. Et à ce moment-là, l'homme de l'hyperconsommation, eh bien, il devient lui-même source et cause de son bonheur, finalement, dans une quête sans fin de jouissance, visant à faire de lui sa propre origine, hein, son propre créateur, voilà. Et on voit comment toute cette recherche de jouissance, mise en lieu et place de la finalité, eh bien, va petit à petit changer notre monde, hein, parce que l'altérité, c'est la finalité, c'est une vie qui a du sens, et la jouissance de l'addict va écraser toute recherche de finalité. On comprend bien que aujourd'hui notre société ne peut plus guérir les addicts, parce qu'aucun matérialisme, aucune hyperconsommation ne peut guérir de la maladie addictive, car la maladie addictive en est le produit. Ça, c'est très important à comprendre. Notre société aujourd'hui, elle fait des addicts, elle est addictogène, et ce sont les plus fragiles qui vont trinquer, mais elle ne pourra pas guérir parce que ce n'est pas le matérialisme et l'hédonisme qui va guérir de l'addiction. Donc, voilà, pour terminer, on a bien compris que l'homme de l'addiction, c'est l'homme qui est coupé de sa capacité à donner, de sa capacité à donner gratuitement, de sa capacité à être en relation, à être en communion avec d'autres, et que son malheur, c'est ça. Son malheur, c'est ça. Voilà. Et que ça, c'est source de très, très grande souffrance, de très grande douleur que d'être à côté de sa vocation profonde, qui est une vocation au partage, une vocation à rechercher des biens plus grands que nous-mêmes. Voilà, je vous remercie. Et puis la prochaine fois, nous verrons peut-être plus des solutions pratiques pour sortir et quitter ce monde de l'addiction.
Docteur Pauline Deveau, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
Oui, bonjour docteur, merci infiniment pour votre prestation qui était vraiment brillante. Et je me suis toujours posé la question suivante. Vous avez parlé des différentes addictions dans différents domaines et c'était vraiment parfait. Mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous continuons d'appeler l'alcool les spiritueux. Parce qu'en fait, si nous réalisons l'étymologie de ce terme, spiritueux, ben, mais c'est spiritus en latin, donc c'est l'esprit et c'est l'âme. Pourquoi est-ce que, bon, je sais bien qu'autrefois, on disait qu'avec un petit peu d'alcool, cela permettait de soigner certaines maladies. L'eau de vie avait des vertus thérapeutiques. Moi, je n'y crois pas trop. Mais enfin, depuis ce temps-là, parce que ça fait quand même illustre, pourquoi continue-t-on à appeler l'alcool qui entraîne autant d'addictions, fait autant de ravages spiritueux, c'est-à-dire esprit et âme? C'est tout le contraire de ce que nous apprenons en religion.
Oui, c'est vrai. Bonjour madame, c'est vrai.
Bonjour.
Mais en fait, spiritueux et spirituel, c'est peut-être différent. Parce que dans la religion, on ne parle jamais de quelque chose de spiritueux. C'est vraiment, ça s'adresse effectivement aux produits alcoolisés. Mais ça vient bien dire que, eh bien que là, il y a mensonge, sans doute. Ça vient prendre la place du spirituel. Le spiritueux est en lieu et place du spirituel. On peut aussi le regarder comme ça, finalement.
Oui, ben oui.
Donc ça montre la piste pour en sortir du spiritueux, au final.
Pour, voilà, on pourrait en sortir.
En lieu et place spiritueux, voilà.
Oui, mais vous voyez, on continue à appeler, ah oui, les spiritueux, voilà. Non, mais, mais ça fait du bien, prenez, ah non, ça ne fait pas de mal, au contraire, ça va vous guérir. Et c'est vrai que, moi, dans mon enfance, lorsque les petits-enfants avaient un petit mal au ventre, on leur donnait un tout petit peu d'alcool. Et c'était incroyable, moi j'ai vu ça dans certaines maisons, et j'ai trouvé cela effarant. Je ne sais pas si ça se poursuit de nos jours, je ne sais pas. Mais je me pose la question aujourd'hui en vous écoutant, mais pourquoi continue-t-on ont appelé cet alcool qui est addictif spiritueux. Alors, c'est vrai, vous avez en partie répondu à ma question, effectivement, quand vous faites la différence entre les spiritueux et les spirituels, mais il y a quand même l'âme, parce qu'en fait, spiritueux, c'est quand même l'esprit et l'âme aussi. Et c'est cette âme qui me gêne.
Ben oui, il faudrait peut-être écrire à l'Académie française.
Voilà, c'est cela. Il va falloir poser la question. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci, au revoir. Bonne journée.
Merci, Monique. Au revoir. Et nous avons Raphaël qui souhaiterait intervenir. Raphaël, c'est à vous.
Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accepté pour pouvoir témoigner. Voilà, j'ai pris en cours de route votre émission et je pense que comment la Vierge Marie a voulu que j'entende un peu cette intervention en plein milieu, parce que c'est vrai que j'ai des addictions. Alors, j'ai deux formes d'addiction qui a lieu avec la qui a un lien avec la pornographie. Il y a un autre aussi, c'est le plaisir d'acheter. C'est-à-dire que lorsqu'on achète quelque chose, on a le désir. Après, quand là, on a ce plaisir et ce plaisir s'estompe au fur et à mesure. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que il y a une chose qu'il faut tenir compte quand on est addictif, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Parce que la présence de Dieu dans notre vie, se laisser absorber par Dieu, permet que aussi ce genre d'addictif, il nous le retire petit à petit avec délicatesse, comme un chirurgien qui opère. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre.
Si. Vous avez une question? Oui.
Non, c'était juste pour témoigner comme quoi chaque matin, en fait, je fais mon oraison. Donc c'est un temps que je prends avec Dieu. Et Dieu, comme il est la lumière, me montre un peu ce qui ne va pas en moi. Mais c'est avec délicatesse. Un peu comme un médecin qui nous montre, qui nous prend avec délicatesse en nous disant, voyez, vous avez ça. Mais comme un bon médecin, il dit, on a la solution. Et il suffit juste de laisser faire Dieu. Cet addictif à la pornographie, je laisse lutter Dieu en moi et je lutte avec Dieu. Et c'est une victoire chaque jour, en fait. Parce que après l'addictif, c'est comme l'alcool, hein. C'est pratiquement physique. On sent physiquement cette envie. C'est pas un désir, c'est en fait une envie, quoi.
Parce qu'il y a une... aussi vous demander quelle est la blessure d'amour, hein? Qu'est-ce qui a manqué dans votre vie, d'accord? Parce que effectivement, le Dieu bien sûr est là, mais Dieu ne méprise pas notre nature psychique et nous demande aussi de faire un travail psychologique et puis peut-être au bout du compte de pardon pour quitter cette blessure, voyez-vous.
Ah, tout à fait, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai expliqué, la relation que nous avons avec Dieu se fait délicatement et petit à petit me montrer les problèmes que j'ai eus quand j'étais très très jeune, vers les 4-5 ans, et, pas vis-à-vis de mes parents, mais quelqu'un de proche qui était me faisait faire des choses conventionnelles, quoi. Et c'est revenu il n'y a pas longtemps et je me suis dit c'est la racine qui en est là. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un travail sur soi-même, un travail avec Dieu et aussi savoir se pardonner à celui qui nous a fait ça. Et déjà, ça c'est un travail, c'est un pas déjà avancé, je pense, pour se guérir de l'addiction. D'abord, savoir se pardonner et pardonner à l'autre ce qui a été fait, en fait.
Oui, voilà, c'était parfait. Bravo, monsieur, pour ce chemin.
Merci beaucoup. Donc, c'est pour ça que je voulais témoigner en disant que quand on a des problèmes comme ça, il faut se tourner vers Dieu, prendre du temps avec Dieu et Dieu nous éclaire. C'est un travail sur soi-même. Mais le faire avec Dieu, parce que Dieu travaille avec nous, et nous pour notre bien, nous devons travailler avec Dieu. Donc voilà, je voulais témoigner ça.
Voilà. Merci
beaucoup.
Merci Raphaël.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, nous avons reçu deux messages. Alors, le premier, bonjour docteur, merci beaucoup pour votre émission qui nous permet de comprendre les personnes dépendantes. Donc, merci. Et je réponds à Kevin, bonjour, je suis arrivée en plein milieu de l'émission, serait-elle disponible en podcast? Oui, Kevin, elle sera disponible bien sûr en podcast. Alors, peut-être une dernière question, docteur Pauline Deveau, concernant, dont on parle de plus en plus de l'addiction aux écrans, et je pense en particulier aux réseaux sociaux. Donc, nous parlons aujourd'hui de. Vous nous avez parlé aujourd'hui des maladies du sens. Est-ce que justement, cette addiction aux réseaux sociaux, de vouloir avoir. Plein d'amis fictifs, le plus grand nombre possible, d'être un petit peu la star de son petit univers virtuel. Est-ce que ce n'est pas une maladie du sens également?
Oui, moi je crois que de toute façon, toute l'hyperconsommation, hein, quel que soit le produit de consommation qu'on utilise, l'hyperconsommation, c'est le remplissage, c'est la peur même du vide en soi. Et du coup, c'est la peur de l'autre, hein. Voilà. Et c'est vrai que il y a un mensonge dans cette addiction aux réseaux sociaux. C'est que, comme vous le dites, on a plein d'amis. On a plein d'amis, mais finalement, on a plein d'amis hors toute altérité, hors relation, hors amitié, hors fidélité. Enfin, il n'y a absolument pas les ingrédients de l'amitié dans les réseaux sociaux. Et c'est un piège. C'est un piège pour les jeunes. Voilà, mais c'est toujours ce monde du remplissage qui va venir faire taire cette angoisse, angoisse de solitude, angoisse de ne pas y arriver, angoisse de performance. On est dans un monde de performance et donc c'est difficile, il y a besoin d'une réassurance. Tout ça, ce sont des comportements effectivement qui visent à se rassurer, à vivre des angoisses normales, mais la réponse de l'addiction est toujours une mauvaise réponse.
Alors, nous arrivons
Voilà.
quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information ou une conclusion à notre émission d'aujourd'hui?
Et bien que aux personnes qui écoutent, qu'elles comprennent en profondeur ce qu'est l'addiction dans l'économie humaine, dans l'économie psychologique et dans l'économie spirituelle. Et toutes les addictions, en fait, recherchent la même chose et fonctionnent de la même façon. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup,
Je dirais.
docteur Pauline Deveau. Nous allons donc vous retrouver pour une prochaine émission. Je crois que vous allez nous parler des moyens de sortir de l'addiction.
Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.